Et bienvenue à tous et à toutes dans cette conférence, les amis, avec Luc Gégère. Alors, ce soir, les amis, nous allons parler avec Luc, qui est un ancien sportif de haut niveau et ancien timide maladif, phobique social, un coach, thérapeute, conférencier et auteur de plusieurs livres, dont le best-seller « La solution NERTI ». Sûrement, vous le connaissez pour ça, les amis. Un des thérapeutes francophones les plus influents du fait qu'il est le concepteur de la méthode de nettoyage émotionnel NERTI. Je suis très fier ce soir, les amis, de vous présenter Luc Gégère, un ami aussi avec qui j'ai voyagé dans les années dernières. Ça va bien ce soir, Luc?
Ça va très bien, Michel, et ça me fait super plaisir d'être avec toi ce soir et d'être avec toutes les personnes qui sont là ce soir. Je pense qu'on va passer bonne soirée.
Ah oui, on va passer
une bonne soirée. D'ailleurs, m'adresser juste à une personne, celle qui est en ce moment en face de son écran et qui est toute seule face à son écran, et il n'y a que juste nous en face d'elle, et de dire, voilà, on est là pour toi ce soir.
Exactement, exactement, exactement. Parce que Luc, la fameuse méthode NERTI, c'est une méthode, à ce que j'ai pu voir, là, qui permet de se débarrasser de ses phobies. C'est bien ça, hein?
C'est exactement ça. Et pas que les phobies, mais j'ai beaucoup communiqué sur les phobies parce que c'est plus visible et c'est plus facile à voir la différence entre le avant et le après, et de voir que tu fais ta phobie, t'as ton araignée qui te fait monter au plafond, qui te fait hurler, et que tu fais ta méthode, et puis direct tu regardes la même araignée, et t'es là, oh, c'est joli finalement. Et du coup, tu vois directement la différence, et c'est pour ça que j'ai beaucoup communiqué sur les phobies, mais après, ça marche aussi sur toutes les réactions émotionnelles. Ça peut être les colères maladives, les colères, tu sais, les colères que tu n'arrives pas à contrôler, les colères intempestives, la jalousie maladive, ça peut être la timidité, ça peut être les blessures de Lise Bourbeau, les blessures.
Les cinq.
De trahison, de trucs comme ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de domaines. En fait, toutes les réactions émotionnelles pour lesquelles on se dit « Ouais, mais j'arrive pas à contrôler, ça c'est plus fort que moi », et ainsi de suite. Eh bien, on va se rendre compte que souvent, c'est dû au fait que, on va en parler, qu'il y a une partie du cerveau qui prend le contrôle, et que malheureusement, cette partie du cerveau, il faut toujours lui dire que la petite araignée ne va pas vous manger. Elle le sait, mais ça n'empêche pas que ça réagit quand même.
Ah oui, ben c'est ça. Parce que là, on parle de l'araignée, parce que souvent, quand on parle de phobie, c'est justement la phobie des araignées qui nous vient à l'idée. Mais comme tu dis, la méthode aussi peut travailler aussi sur les cinq blessures de l'âme là, de Lise Bourbeau. Ça peut travailler sur bien des aspects. Là.
Exactement, le syndrome de l'imposteur aussi. La peur de réussir, la peur de l'échec. Il y a beaucoup, beaucoup d'indications dans lesquelles ça donne des résultats qui change la vie des gens.
Et c'est à ce que je peux voir, à ce que j'ai pu entendre, c'est une sorte de hacking, dans le fond. C'est une sorte de hacking qui va faire dans le cerveau, qui va faire en sorte que ça va créer un genre de blocage de la phobie.
En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, oui, tu peux dire que c'est un hacking, mais un hacking, ça veut dire que c'est quelque chose de récent et qu'on vient de trouver. Sauf qu'en fait, c'est vieux comme l'être humain, puisqu'en fait, c'est un système qui est déjà à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est un système de nettoyage émotionnel qui est... On est né avec, presque. Et le problème, c'est qu'on est devenu intelligent. Et comme on est intelligent, on fait les erreurs dont je vais parler ce soir qui font que ça empêche ce système de se mettre en route. Et ce que j'ai trouvé, c'est comment le remettre en route à volonté, dès qu'on veut, où qu'on soit, dans n'importe quelle situation, et tout au long de sa vie, une fois qu'on a appris à le remettre en route, à le réutiliser, c'est comme le vélo, on sait l'utiliser et on peut l'utiliser. Dès qu'on sent une émotion qui prend le contrôle sur nous, on fait ce protocole et la même émotion dans une autre situation, elle va juste disparaître. Et on va se retrouver dans la même situation, et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas besoin de contrôler derrière, il n'y a pas besoin de se dire « Ah ouais, je vais tenir !» C'est pas du tout. Tu arrives dans la même situation et tu es là « Normalement, j'ai peur là. » Ah bah non, ah bah, ah bah pas ça, alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où ma peur? C'est quelque part, c'est presque tu la cherches, presque tu te dis, mais c'était quoi? Ou la colère, ou enfin, quelque soit l'émotion sur laquelle tu as travaillé. Quoi.
Ah oui, donc c'est à ce point-là, c'est un protocole qu'on suit, et puis est-ce qu'on suit ce protocole-là pour une peur spécifique? C'est ça. Et donc, on l'applique à chaque peur spécifique qu'on peut avoir. Si j'ai une peur des araignées, je vais appliquer ton protocole pour les araignées. Ensuite, ouais. Si j'ai peur de la hauteur, je vais l'appliquer pour la hauteur, etc.
C'est ça. Alors, en même temps, on va dire sur chaque peur, oui. Et en même temps, ce qui est très drôle et qu'on voit tout le temps, c'est que tu vas travailler sur une peur spécifique, mais souvent, ce qui a déclenché cette peur, bah, ça déclenche aussi d'autres réaction émotionnelle dans ta vie. Et tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu n'as pas travaillé du tout et qu'on disparu aussi.
Ah oui?
C'est ça qui est génial aussi, c'est que pratiquement à chaque fois, les gens disent, bah là j'avais une amie qui m'en parlait là ce matin et qui me disait que voilà, elle a quelqu'un qui vient pour une phobie des serpents et donc il fait la séance avec la phobie des serpents et l'après-midi, la personne lui dit ça se peut que le truc qu'on a travaillé ce matin, ça ait des effets sur d'autres sujets. Bah oui, ça, bien sûr, ça peut. Et dire parce que normalement, j'ai peur de parler en public. Et cet après-midi, j'avais une intervention, une réunion dans laquelle je devais prendre la parole, et ça a été hyper fluide. Elle dit, je comprends pas. parce que en fait, c'était la même racine qui a été nettoyée, mais qui s'exprimait dans la peur des serpents et dans la phobie des serpents et dans la prise de parole en public. Donc, les deux sont partis en même temps, sans travailler dessus.
Ah oui, donc le protocole, il peut agir sur des peurs qu'on ne sait même pas que l'on a. Là.
Ben, il savait qu'il avait cette peur-là. Okay. C'est juste qu'il n'a pas travaillé dessus. En fait, c'est comme si tu disais, tu as une casserole sur le gaz et elle chauffe, tu as deux casseroles qui sont sur le même gaz. Et tu éteins le feu sous la première, et ben si elles sont sur le même gaz, la deuxième, elle arrête de chauffer aussi.
OK, oui, je comprends un peu comment ça fonctionne. Ouais. Et puis, ce protocole-là du NERTI, est-ce que quand tu as développé ça, est-ce que c'est quelque chose de complexe? Est-ce que les gens doivent, pour faire le protocole, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est quelque chose
d'assez simple? Non, alors, pour l'apprendre vraiment, en fait, c'est un peu comme une recette, quoi. Il faut le faire dans le bon ordre, de la bonne façon, et ainsi de suite. Mais c'est assez simple. Enfin, c'est à la fois très simple, mais c'est comme si je te dis, tu apprends à marcher sur un fil, enfin, sur une poutre, une petite poutre, tu vois. Et ben, c'est facile. Tu peux dire, c'est facile. Mais en même temps, il faut apprendre à le faire, quoi. Tu vois, enfin, il suffit de mettre un pied devant l'autre. Mais en même temps, il faut le faire. Et donc, c'est un peu la même chose que conduire. Tu vois. On te dit, bah, conduire, c'est simple. Tu prends le volant, tu tournes à droite pour aller à droite, tu tournes à gauche pour aller à gauche, et puis tu appuies sur la pédale de droite pour accélérer, la pédale de gauche pour freiner. C'est simple, en idée. Après, bah, quand on te met sur la voiture la première fois, t'es tout perdu, tu sais pas ce qui se passe, tu vois les voitures, tu comprends rien, quoi. Bah, là, c'est un peu pareil. En fait, c'est très simple. Et en même temps, bah, faut quand même le temps de l'apprendre correctement et de pas faire d'erreurs. Parce que si tu commences à faire des erreurs au début, bah, après, tu vas répéter les mêmes erreurs et tu vas galérer un peu plus. C'est pour ça que j'ai créé l'autothérapie en ligne où j'apprends aux gens. Enfin, c'est un éducatif où dans lequel j'apprends aux gens d'abord des petits exercices pour se mettre en forme. Mettons, si je reprends la métaphore de la voiture, bah, tu apprends à ce que ta voiture, tu tournes à droite, tu regardes comment ça, jusqu'où elle va, tu vas à gauche, tu regardes jusqu'où elle va. Après, tu apprends à utiliser l'accélérateur, tu vois comment ça accélère. Après, tu apprends à utiliser le frein, à t'arrêter au bon endroit. Voilà. Et au bout d'un moment, bah, tu sais conduire. Et du coup, c'est ce que j'ai mis en place. C'est parce que moi, je ne voulais pas que les gens dépendent d'un thérapeute. Moi, je voulais que chacun soit autonome.
Ah, oui, oui, oui.
Être capable de se prendre en main pour le reste de sa vie. Parce que sinon, bah, y en a pour... Bah, tu n'es jamais tranquille, quoi. Parce que tu sais... Mettons, tu es tu es en face d'un problème comme une phobie, ton thérapeute, il n'est pas là. Tu vois, tu descends dans ta cave, tu as une araignée, bah, tu n'as personne qui est là. Et alors, s'il faut que tu attendes d'avoir ton thérapeute, prendre rendez-vous, y aller, et puis peut-être il n'a pas le bon outil, il ne sait pas l'utiliser. Voilà, donc tu ne vas pas forcément être content. Alors que là, tu es face à ta difficulté, tu sors ton protocole, tu fais ton protocole, et tu es tranquille directement. Tu n'as pas besoin d'attendre la semaine prochaine ou 3 semaines pour avoir un rendez-vous, pour te déplacer, pour même pas sûr du résultat. Parce que là, en plus, tu vas pouvoir vérifier directement que le résultat, il a marché, puisque tu es dans la situation. Tu vois. C'est ça qui est génial.
Et puis, de tous les clients que tu as eus, est-ce qu'il y a un pourcentage de chez les clients que ça fonctionne? Genre, est-ce que c'est à 100%, à 95%?
Pratiquement tous, parce que en plus, moi, dans ma formation en ligne, j'ai une garantie de résultat.
Ah!
C'est-à-dire qu'il y a plus de 5000 personnes qui sont inscrites dans la formation au jour d'aujourd'hui. Hein, et depuis le début, j'ai toujours donné une garantie de résultat. C'est-à-dire que, en fait, je dis aux gens, vous faites l'autonerti. Vous apprenez, vous faites tous les exercices, vous faites ce que je vous dis, vous répondez dans les commentaires, les coachs sont là pour vous répondre dans les commentaires, parce qu'il y a les coachs qui accompagnent les gens aussi, hein, c'est en individuel de temps en temps. Vous arrivez au quatrième module, qui est le module de libération. Donc là, les gens, c'est vraiment le module où les gens appliquent le protocole complètement. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, je vous dis, bon, vous faites une séance, deux, trois séances, quatre séances, vous remarquez que vous n'y arrivez pas. Déjà, il y a 80% des gens qui arrivent à ce stade-là, c'est sûr. Ouais. Mais admettons que vous faites partie des 20% qui ont été trop vite, qui n'ont pas fait attention à certains exercices. Voilà. Vous faites quelque chose qui n'est pas correct, donc du coup, ça ne marche pas pour vous. À ce moment-là, bah, les coachs, ils sont là et ils vont vous dire, OK, je vais faire une séance avec toi. Donc, à distance, ils vont faire une séance avec toi, ils vont regarder qu'est-ce que tu as fait qui n'est pas correct, à quel endroit tu t'es raté, la partie du protocole que tu as... Et tu n'as pas bien fait. Donc à ce moment-là, ils vont faire une séance, ils vont peut-être même en faire une deuxième si jamais ça ne marche pas trop. Et là, en général, on est à 99% des gens qui ont réussi. Parce que bah, voilà, c'est obligé. Et là, si jamais les gens n'y arrivent pas encore, c'est moi qui fais une séance avec eux. Alors, moi, je m'engage. Mais je veux qu'ils réussissent. C'est pas autre chose, c'est je veux qu'ils réussissent. Et s'ils paraissent extraordinaires, quand même moi, je vais avec eux et que je n'arrive pas à les faire. Réussir, et là on est dans les 0 quelques pourcents, bah à ce moment-là on rembourse. Donc c'est vraiment une garantie de résultat ou satisfait ou remboursé. Parce que pour moi, j'estime que si la personne, ça n'a pas changé sa vie, j'ai aucune raison d'être payé pour ça. Point barre. Pour moi, c'est même pas une question, c'est obligatoire. C'est comme ça. Et depuis 2014 que cette formation est en ligne, j'ai toujours fait ça et j'ai aucun problème avec ça et c'est parfait. Et du coup, je ne peux pas dire 100% parce que ça serait pas vrai. Il y en a quelques-uns où vraiment il y a un bug psychologique, je ne sais pas quoi, qui fait que ça ne marche pas, mais c'est vraiment très, très, très épisodique.
Ah oui, oui. Et est-ce que c'est. Parce que là, je sais pas quelle est la méthode Nerti, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des méthodes avec les yeux, avec d'autres avec des mouvements, c'est quel genre de méthode?
Ouais, non, en fait, ça travaille sur les sensations du corps. C'est-à-dire que, alors si j'explique en gros ce qui se passe, c'est qu'il y a la partie instinctive de notre cerveau qui se croit en danger de mort, en fait. Dans la situation, quand on voit une araignée, on est en panique. Pourquoi on panique? Parce que la partie instinctive de notre cerveau, elle a associé à ce qu'elle voit de l'araignée un moment où elle a cru mourir. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça veut dire que pour elle, elle code le fait que ça, l'araignée, elle va me faire mourir. Évidemment, ce n'est pas la partie mentale du cerveau, parce que le mental, évidemment, il sait très bien que la petite araignée ne va pas le manger, hein, on peut lui expliquer, et donc il n'y a pas de souci. Ce n'est pas non plus la partie émotionnelle, parce que la partie émotionnelle, elle n'a jamais été mordue par une araignée, elle n'a jamais subi une vraie agression par une, l'araignée. Et donc, c'est codé au niveau de l'instinctif qu'il y a danger de mort. Et donc, ce qui se passe dans le corps, c'est qu'il y a une sensation particulière qui est ce que j'appelle le verrou émotionnel. Et cette sensation particulière, c'est une sensation bizarre de flottement, de tomber dans, un peu comme tomber dans les pommes, parce que c'est effectivement une perte de connaissance accidentelle qui a été comprise par la partie instinctive du cerveau, par ce cerveau reptilien, comme étant un moment où il a cru mourir. Je ne sais pas si c'est clair pour toi.
Oui.
Il y a eu une perte de connaissance accidentelle, alors c'est souvent en intra-utérin, à la petite enfance et ou à au moment de la naissance. Et même ce que je me rends compte, c'est que vu le nombre de nettoyages qu'on peut faire dans une vie, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et de l'expérience que j'en ai personnellement et des gens enfin, qui ont cherché avec moi, on a creusé un peu dans les recherches, et on a vraiment l'impression qu'on nettoie même des mémoires transgénérationnelles ou qui viennent comme ça de notre passé, mais même avant notre naissance. Quoi.
Ah oui, oui.
Selon nos croyances. Quoi. Parce qu'il y en a trop pour une vie. Quoi. En gros, ce qu'on trouve, c'est qu'on en nettoie trop pour que ça soit qu'en une seule vie qu'on a pu vivre ça.
Ah ouais, parce que moi, j'ai un de mes neveux. Il est né, puis il a toujours eu peur des requins.
Ouais.
On ne sait pas d'où ça vient. Personne ne sait d'où ça vient, mais c'est une phobie des requins. C'est comme si ça venait d'une autre vie. C'est fou.
Et en fait, c'est qu'il y a, à la vue du requin, pour lui, et ben, il y a le cerveau reptilien qui se met en mode panique, qui se met en mode « attention, on va mourir ». Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que Et comme face à la mort, ben, face à ce danger de mort hyper important, c'est comme si tu avais une énorme alarme qui s'allume dans ton cerveau. C'est une sirène, quoi. Une sirène s'allume dans le cerveau qui hurle à fond. Donc, ben, soit tu es en mode peur et fuite, donc dans ce cas-là, c'est la panique, c'est la phobie. Soit tu es en mode défense, donc du coup, tu vas attaquer. Donc du coup, tu es en mode colère, en mode attaque, quoi. Ou alors, tu es en mode freeze. Tu es en mode... Tu fais le mort, quoi. Tu sais, t'es tout bloqué, tu peux t'es à bout. Voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'on va repasser dans ce que j'appelle ce verrou émotionnel, c'est-à-dire ce moment qui est dans les sensations du corps, et en repassant dans ces sensations du corps particulières qui correspondent à la réaction émotionnelle qu'on a, ben, notre cerveau reptilien, il va faire une nouvelle compréhension. C'est-à-dire qu'il va revivent les mêmes sensations où ils croient mourir, sauf qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils ne meurent pas à ce moment-là. Et comme on est conscient à ce moment-là et qu'on va verbaliser, qu'on va dire bah « voilà, je sens ça », on va rester conscient en même temps de ce qui se passe. Donc, notre cerveau reptilien, il va passer dans ce moment, il va dire « ah bah tiens, là, je suis en train de mourir, ah bah non, je ne meurs pas, ah bah là, je suis en train de mourir, ah bah non, je ne meurs pas, ah bah tiens, je suis en train de... ah bah non, je ne meurs pas. » Et il va passer comme ça au travers de l'événement.
Okay.
Et il arrive à la fin et il se dit « ah bah non, je ne suis pas mort. » Et comme lui, il n'y a pas de gris ou c'est blanc ou noir. C'est-à-dire pour lui, c'est noir, c'est vie ou c'est mort. Donc là, il dit, je vais mourir, je ne meurs pas. Ah bah donc je ne meurs pas. Donc j'ai aucune raison de garder cette mémoire, puisque en fait, elle n'est pas vitale. Et lui, notre cerveau reptilien, il ne garde que les mémoires vitales. C'est-à-dire qui sont codées comme étant en capacité de nous faire mourir. Et s'il pense que ça ne peut pas nous faire mourir, bon, ben, il lâche l'affaire et il l'efface complètement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans la même situation et qu'on se dit, mais normalement, là, j'avais peur. Normalement, là, j'étais en colère. Ou normalement, j'étais jaloux dans cette situation-là. Et t'es là, bah non. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, même les gens ne se rendent même pas compte. Par exemple, j'ai une copine sur laquelle on avait travaillé sur la jalousie. Ça, c'est devenu une copine après. Mais grosse jalousie maladive, c'est-à-dire que quand son gars, il était en train, son chum, comme tu dirais au Québec, comme quand son gars, il était ne serait-ce qu'en train de discuter avec une fille, mais dans une soirée, truc comme ça, mais normal, hein, juste parce qu'il discute avec comme ça, même si c'était quelqu'un qu'il connaissait bien, elle montait dans les tours, quoi. Elle était crispée, elle lui faisait une scène, un truc comme ça. Et donc, on fait la séance, et la fois d'après, Elle est en soirée comme ça. Et puis, il y a une de ses copines qui vient la voir et tu dis, ça te dérange pas que ton gars, il soit en train. Et là, elle regarde. Ah bon, oh. Ah ouais. Et tu vois, elle l'avait même pas vu. Alors que jusque-là, elle était complètement omnubilée par ça. Enfin voilà. Et souvent, c'est ça, c'est souvent les gens de l'extérieur qui vont dire à la personne, mais au fait, ton truc là, que tu réagissais, tu réagis plus. Et souvent, les gens ont oublié même qu'ils réagissaient comme ça. Parce qu'ils, elle disait, je comprends pas pourquoi ça me. Je comprends plus ce qui pouvait me mettre dans des états pareils. Elle dit, je sais pas, je sais pas, je comprends pas. Ça me paraît tellement débile maintenant que je comprends pas. Parce que, bah, comme le cerveau reptilien, il est apaisé, bah, du coup, l'émotionnel, il est tranquille au-dessus. Et le mental au-dessus, bah, il dit, bah, non, tout va bien, quoi, tout est OK.
Ah oui, ben oui. Et puis, comme tu dis, toi, le cerveau reptilien, il va tester, il va dire, ah, je ne suis pas mort. Et il va retester, il va dire, ah, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Donc, à la fin, il va dire, donc, la situation n'est pas quelque chose à laquelle je devrais être stressé. Et donc, elle le prend comme en mémoire et puis elle peut maintenant l'affronter. Mais toi, ta technique, parce que moi, je me souviens de t'avoir vu, il y avait une grosse conférence, ça fait des années de ça. Puis toi, tu étais speaker, puis il y avait Laurent, puis il y en avait un autre, je me souviens, mais lui, il avait gelé complètement sur la scène. Et puis, ben, c'est ça, mais donc, s'il avait fait ta technique, il n'aurait pas gelé. Il
C'est
n'avait pas
sûr.
été capable de parler, je me souviens, Laurent lui avait dit, viens sur la scène, et puis, oh, t'es pas capable.
Ah oui, il a gelé comme tu dis, ouais. C'est
Et donc,
ça,
s'il avait fait ta technique,
il est resté sidéré, quoi.
oui, c'est ça. Il s'est dit, pour moi, la foule va me manger ou je sais pas quoi. Tu sais.
En tout cas, c'est exactement ça qui se passe en interne. Enfin,
Oui.
au niveau du reptilien, c'est ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que pour lui, il est face à un requin en train d'ouvrir sa gueule comme ça devant lui, quoi. Mais c'est ça qui se joue en interne, hein. Évidemment, pas à l'extérieur. Mais... Et donc, c'est pour ça qu'il est tout gelé, quoi. Comme tu dis.
Et
Oui.
s'il avait fait la méthode Nerti avant d'aller sur la scène, il aurait été capable d'affronter la scène.
Sûr et certain.
Ok, ouais, ça c'est bon.
Parce qu'on aurait travaillé sur ce sujet-là, effectivement, on aurait nettoyé et il serait arrivé sur scène. Alors après, on a toujours du trac sur scène. Faut pas non plus. Enfin, c'est Roger Love, le plus grand coach vocal du monde avec lequel j'ai travaillé, qui est le coach de Tony Robbins, enfin voilà, des coachs, un coach américain. Il me disait: There are two sorts of people. They are the one who are afraid and they are the liars. En gros, ça veut dire, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui ont peur sur scène et il y a les menteurs. Voilà. Et lui, il a coaché les plus grands et ainsi de suite. Et Brendan Burchard aussi, enfin voilà, des très, très grands speakers. Et il dit, tout le monde a le trac, c'est normal. Par contre, ils ne frisent pas ces gens-là. Ils gèlent pas sur, enfin, ils sont pas bloqués. Ils ont le cœur qui bat, ils ont un peu un peu chaud, un peu truc comme ça, mais et ça donne de l'énergie. Donc des fois les gens viennent me voir et me disent, ouais, est-ce que du coup j'aurais plus jamais le trac? Non, ça, le trac, c'est quelque chose de normal, c'est naturel. Nerti, ça va juste enlever la partie pathologique, la partie qui te fait bloquer, la partie qui t'inhibe complètement. Ça, oui. Mais après, le track, il reste, c'est normal.
Ok. Donc, pour ce qui est de parler en public, les gens vont quand même avoir le trac, mais ils vont être capables de parler en public. Ils vont pas geler, comme on dit, ils vont pas friser, là.
C'est ça. Et en fait, ils vont avoir un track, mais un track positif. C'est-à-dire, c'est le track moteur, le track qui te donne envie d'apporter, qui te met l'énergie. Moi, j'avais remarqué ça quand, justement, pour lutter contre ma timidité maladie, j'avais fait du théâtre à une époque. Et je m'étais rendu compte que les gens qui n'avaient pas le trac, ils étaient mauvais. En vrai. Parce qu'ils arrivaient là, et du coup, ils n'avaient pas l'énergie qu'il fallait pour transmettre au public, pour faire plaisir au public, pour transmettre l'émotion. Et le trac, en fait, c'est une bonne énergie. C'est bon. Ça aide à être impactant sur le public.
Oui, je comprends. Moi, j'avais fait, j'étais aussi timide, moi, devant le public, et puis j'avais fait les Toastmasters, mais c'est quand même quelque chose d'assez long. Il faut que tu commences devant une personne, après deux, après trois, puis ça prend des mois avant d'être capable de parler devant 10 personnes. Donc, c'est là que j'aurais aimé connaître la méthode Nertti pour aller un peu plus vite. Parce qu'il y a des méthodes comme ça, c'est petit à petit, tu sais.
J'avais fait aussi, moi je m'étais entraîné pas mal avec Toastmaster aussi. C'est très intéressant aussi.
Mais
Ça résout pas le problème.
c'est ça. Donc, toi, tu étais un timide maladif, comme tu dis, c'est là que tu as commencé à t'intéresser à ce qui se passe dans le cerveau. Donc, j'imagine que tu as fait des recherches sur les
Tout
qu'est-ce qui amène les
à fait.
peurs.
Pour t'expliquer à quel point j'étais timide maladif, je peux te raconter un épisode de ma vie qui était assez fort. J'avais 20 ans, je me souviens, c'était au mois de décembre. Et j'habitais à Nancy encore à l'époque, dans l'est de la France. Et j'étais sur le trottoir, comme ça. Et j'étais en train de regarder un magasin devant moi, la vitrine d'un magasin. Et j'étais en train de suer sur place. Il faisait froid, mais j'étais en sueur quand même. J'avais la gorge nouée et j'étais en train de me répéter: allez, j'y vais, allez, j'y vais, allez, j'y vais. Et à ton avis, est-ce que j'étais en train de regarder je sais pas, une bijouterie ou une banque, et que j'allais braquer une bijouterie ou une banque? En tout cas, j'avais l'énergie comme ça, quoi. En me disant: allez, j'y vais, ah non, pas maintenant, il y a trop de monde, ah non, maintenant, il y a pas de monde. Ah. Et en fait, ce que j'étais en train de regarder devant moi, c'était la devanture d'une boulangerie. Et en fait, j'avais peur de rentrer dans la boulangerie et de m'adresser à la serveuse, enfin, la boulangère qui était là, la petite nana qui était une nana mignonne. C'était pour ça que j'avais peur d'ailleurs. Principalement, c'était mon grand truc. Et j'étais là et j'avais peur. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est que elle a regardé par la vitrine et elle m'a vu. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'elle me voyait. Et là, j'ai paniqué complètement. Et je suis parti en courant dans la rue. Je suis parti, je suis parti. Je courais dans la rue. Et, là, dans ma tête, je me disais: allez, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Et pourquoi je disais t'arrêtes pas? Parce qu'il y avait une autre boulangerie un peu plus loin dans la rue. Et je courais, je courais, je courais, je courais comme ça. Et j'arrive à la boulangerie. J'ouvre la porte, là, et je mets mes pièces que j'avais dans la main sur le comptoir. Et je dis: je veux une baguette. Et là, qui était là: ah, qu'est-ce qui se passe? Tellement j'étais paniqué. Et là, elle me donne la baguette et je sors du truc. Et là, j'étais là: yes, j'ai réussi, j'ai réussi. Parce qu'en fait, pour te dire le truc, c'est que comme bah, j'avais ces peurs-là, et j'avais fait une liste de toutes les peurs de ma vie, et je les avais classées par ordre de difficulté. Donc il y avait le théâtre, faire du théâtre par exemple, qui était très loin. Et la toute première, c'était ça. C'était
Ah ouais.
rentrer dans une boulangerie et demander une baguette. C'était ça mon challenge, quoi. C'est dingue quand tu y penses. Et je me rappelle que la deuxième, donc ça, j'ai mis 2, 3 mois avant de commencer à être un peu à l'aise à le faire, mais toujours en mode bois, hein. Par contre, ça n'avait rien nettoyé, mais c'était en mode en force tout le temps. Et la deuxième chose, c'était de rentrer dans une boulangerie, de demander un gros pain et de dire: ah non, je me suis trompé, je voudrais une baguette. Ben, pour arriver à oser dire ça, à dire: ah non, je me suis trompé, je veux une baguette. Je sais pas, j'ai mis 3 mois, 4 mois, 5 mois, j'en sais rien, pour arriver juste à prendre le courage de changer d'avis, tu vois. Quand j'y pense maintenant, ça me fait rire, tu vois, parce que c'est tellement, ça paraît dérisoire, mais c'était dingue, quoi.
Et c'est en faisant des recherches un peu sur ces peurs que tu avais que tu as fini par trouver la méthode Nertti, là.
Oui, en fait, il y a plein de choses différentes qui étaient assez. Enfin, en fait, à l'époque, aller voir un thérapeute, aller voir un coach, pour moi, c'était pas possible. C'était que pour les fous, que pour les tarés. Enfin, voilà, à mon époque, ça se faisait pas. Du coup, je me faisais des thérapies en me disant: bah, ça y est, j'ai trouvé le truc. J'ai trouvé le truc et ça y est, ça va cartonner. J'ai trouvé la solution. Par exemple, j'ai fait les stages de Tony Robbins sur la marche sur le feu, tu vois. Et ça a coûté, si on compte en argent de maintenant, ça a coûté pas loin de 10 000 euros, enfin, un truc comme ça. Et là, je me disais: ça y est, là, j'ai trouvé le truc. Et donc, je suis allé au stage Et j'ai fait la ligne de feu. Et puis, j'ai dit, OK, j'y vais. Et puis, il te dit, bah, voilà, une fois que tu as traversé ça, toutes tes peurs ont disparu. Voilà, c'est génial, quoi. Donc, j'y vais, en mode bourrin. Là, allez, allez, allez. Et puis, je traverse le feu. Yeah, j'étais content, je célèbre et tout, super content. Hein. Après, je rentre chez moi. Et en rentrant chez moi, bah, évidemment, je fais comme ça. Donc, évidemment, les premiers jours, j'ai quand même plus de force. J'arrive à aborder les gens plus facilement et ainsi de suite. Mais au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis le jour où je suis fatigué, je suis stressé, c'est comme ça, je me retrouve de nouveau à vouloir aborder une fille. Tout bloqué, impossible. Tout, je frise de nouveau. Enfin, je gèle encore, comme d'habitude. J'ai l'impression d'avoir les deux pieds coulés dans le béton. J'ai une chape de plomb sur les épaules. Je pèse une demi-tonne. Enfin, voilà, j'ai deux neurones. Donc, ça ne tenait pas. Et en fait, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai testé des choses comme ça. Et l'une des premières choses qui a commencé à me faire comprendre Nerti, c'est que j'ai fait un stage de ce qu'on appelle Vipassana. Je ne sais pas si tu connais cette technique. Vipassana, en fait, c'est une technique de méditation où en fait, tu fais... C'est 10 jours de méditation, 10 heures de méditation par jour, sans parler à personne. Donc, c'est un peu hardcore, hein, c'est un peu dur. Et donc, j'ai fait cette technique. Et l'été d'après, je suis allé dans... Chaque été, j'organisais des spectacles dans des campings. C'était mon job d'été, on va dire. Et chaque été, je pétais les câbles parce que les artistes, ça se passait... C'était difficile. Voilà, faut cadrer les artistes, hein, c'est pas simple. Et donc... Je me mettais en colère, mais violemment, plusieurs fois par semaine, à cause de ça. Et l'été d'après, donc, j'ai fait Vipassana en janvier, donc l'été d'après, je fais mon stage de... Enfin, je fais mes spectacles. Et là, de tout l'été, je ne me mets pas en colère. Enfin, ou de temps en temps, un tout petit peu, tu es... Et puis voilà, c'est tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont les mêmes, les situations sont les mêmes, mais je ne me mets plus en colère. Et la seule chose que j'avais fait de différent vraiment cette année-là, c'était ce stage de Vipassana. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce stage de Vipassana? On observe les sensations. On observe la respiration pendant 3 jours. Super passionnant. Tu observes l'air qui rentre et qui sort. C'est insupportable. Tu fais que ça. Et après, pendant 3 jours, tu observes ton corps, les sensations du corps. 7 jours. Tu fais que ça. Et donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que juste en observant ce qui se passait, en laissant faire ce qui se passait dans le corps, eh bien, j'avais libéré mon hyper-réactivité à la colère. Donc ça, c'était génial. Et du coup, je me suis dit, ben, juste avec les sensations, avec ce qui se passe dans le corps, on peut faire ça. Alors, c'était génial pour la colère, mais ma timidité, elle n'a pas bougé d'un poil. C'est-à-dire que tu ne savais même pas sur quoi tu pouvais travailler. Tu avais un truc qui avait sauté, tu es content, mais tu ne sais pas lequel. C'est quand même pas terrible quand tu veux faire de la thérapie. Tu as quand même envie de savoir sur quoi c'est. Et puis, surtout, si tu dis aux gens d'aller faire 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours sans parler à personne, il n'y a pas beaucoup de candidats. Ouais. C'est pas possible. Après, il y a eu d'autres techniques comme ça. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, du jour au lendemain, en fait, ça a switché pour moi. C'est-à-dire que j'étais dans un festival de piano. Et dans ce festival de piano, donc, je venais de rencontrer ma compagne depuis peu de temps. Donc, comme d'habitude, je me lançais toujours les défis de faire les choses que pour pousser ma peur, toujours en mode bourrin, en mode Tony Robbins, pour pas me laisser en fait me laisser enfermer dans cette peur et dans cette timidité. Et là, il y a un des artistes dans ce festival de piano qui propose un cours d'improvisation au piano en public. Et donc moi, comme d'habitude, en mode défi, je me dis, ah, je lève la main, donc, il me dit de venir, et là je m'attendais à avoir de la sueur, d'avoir des mains qui tremblent, mais que j'allais faire comme d'habitude, j'allais faire, oh, je m'en fous, j'allais en faire trop, j'allais faire le beau, tu vois, je frimais quoi, pour cacher ma peur. Et donc j'y vais, et en fait il se passe pas grand chose, je sens pas grand chose, mais je fais pas très attention sur le moment. Et après, donc, il m'explique comment on joue au piano. Bon, je ne me rappelle plus du tout ce que c'était. Hein, mais... Donc, il m'explique des trucs. Je fais un peu les trucs. Et là, j'oublie carrément qu'il y a du public autour de moi. Et ça, quand tu es timide, enfin en tout cas moi dans mon monde de timide, quand il y a du monde autour de moi, je ne peux pas l'oublier parce que j'ai l'impression qu'ils me touchent physiquement. J'ai l'impression que leur regard, il m'appuie dessus. Et là, ce jour-là, je suis devant mon truc de piano et j'oublie les gens. Et quand je lève les yeux, je reprends conscience que devant moi, il y a 50 perdus qui sont en train de me regarder. Et ils viennent jouer du piano alors que je n'ai pas joué de piano. Et là, je me dis, what the... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce truc? Et je regarde, j'essaie de sentir en moi, la grosse boule contre laquelle je me battais tous les jours dans toutes les situations sociales, elle n'est juste plus là du tout. Et je suis vraiment là, toi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que à ce moment-là, j'ai déjà mon cabinet, parce que à force de travailler sur moi, j'étais devenu un peu le spécialiste auquel on venait voir. Donc, au bout d'un moment, j'en ai fait mon métier, hein, finalement, par la force des choses. Et donc, du coup, j'essaie de voir ce que j'ai fait avant et je l'utilise dans les autres situations avec les clients. Alors, des fois, ça part. Enfin, des fois, il y a une phobie qui dégage en mille fois. Et des fois, pas. Et je ne comprends pas pourquoi des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. Et je cherche. Et là, j'ai encore travaillé pendant 4 ans là-dessus. Et je découvre un jour deux études, en fait, une étude à Bordeaux et une étude au Danemark, qui montrent que quand les gens ont un accident de voiture avec perte de connaissance, dans les mois qui suivent, les phobies, les angoisses, les paniques sont multipliées entre 4 et 10 fois. Ils ont 4 à 10 fois plus de chances de développer une phobie après un accident de la route avec traumatisme crânien. Et du coup, je prends conscience de ce que je te disais tout à l'heure, de cette perte de connaissance accidentelle, qui est codé par le cerveau reptilien comme étant un moment où il croit mourir. Et du coup, quand il y a quelque chose dans leur environnement qui ressemble à ce qu'ils ont perçu à ce moment-là, donc ça peut être un bruit, ça peut être un truc qu'ils voient, ainsi de suite, et ben, le cerveau se met en mode phobie, en mode panique. Et du coup, il réagit comme ça. Et c'est là où j'ai compris, en fait, et que j'ai commencé à travailler avec cette sensation de verrou émotionnel dont je te parlais tout à l'heure, et de chercher dans les sensations du corps à quel moment, quand on est face à une situation, on sent ces sensations bizarres et qui font croire qu'on meurt et on va passer dedans, comme on disait tout à l'heure, on va passer dedans, on va se dire on meurt pas, et on va nettoyer. Et c'est ça, en fait, le cœur de la méthode NERTI. C'est ce verrou émotionnel.
Ok. Et puis, si on parle des 5 blessures... Parce que tout à l'heure, j'avais de la misère à m'imaginer un peu comment ça pouvait fonctionner sur les 5 blessures. Si on parle de la blessure d'abandon, OK? En fait, quelqu'un qui a l'abandon, parce qu'il faut faire la différence entre rejet et abandon, parce que j'ai fait une conférence l'autre jour avec une personne qui me parlait de ça, puis elle me disait, si on est tout autour d'une table de conférence, la personne en rejet, c'est la personne qui ne va pas parler, qui va rester dans son coin. Puis la personne qui a beaucoup plus d'abandon, mais elle va toujours être là. Écoutez-moi, regardez-moi, parce qu'elle ne veut pas se faire abandonner. T'sais. Et la personne en abandon, souvent, ça va être la personne qui va être dépendante affective. Ouais. Et c'est ce qui va y amener beaucoup de problèmes. Comment la méthode NERTI peut travailler là-dessus?
En fait, exactement de la même façon. C'est-à-dire que quand tu es dans cette situation de... que ce soit d'abandon, de colère, ou quelle que soit l'émotion que tu ressens, tu es à ce moment-là en train d'être en réaction à ce que ton cerveau reptilien envoie comme panique. Donc, il suffit de rester dans les sensations du corps et d'aller jusqu'à cet endroit du verrou, qui est ce moment où le cerveau reptilien est en train de paniquer. Et c'est que dans les sensations du corps. Donc, tu n'as même pas besoin de savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, de raconter ta vie à la... truc de... Parce que... Voilà, je peux rentrer un peu plus en profondeur. C'est-à-dire que, en fait, il y a un moment dans notre vie où on dit... Enfin, la plupart des gens, quand ils ont ce genre de choses, ils disent « Ouais, ça vient de tel événement dans ma vie qui a été traumatique. » Il se trouve que la plupart du temps, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas cet événement-là qui est vraiment traumatique. C'est-à-dire que celui-là, il n'a fait que réveiller la mémoire du cerveau reptilien. C'est ça que je l'appelle souvent l'événement déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a un événement traumatique au niveau du cerveau reptilien qui, en général, est complètement inconscient. On ne s'en rappelle pas, il est occulté. Et l'événement dont on se rappelle, par exemple, la personne elle est dans un ascenseur et l'ascenseur s'arrête et elle panique, c'est-à-dire ça vient de ce moment-là. Mais en fait, si ça venait de ce moment-là réellement, ça ferait la même chose pour tout le monde, tous ceux qui sont dans l'ascenseur. Mais il y en a pour lesquels ils vont paniquer, d'autres pas. Ben, ceux qui vont paniquer, c'est parce que cet événement rappelle le moment dans le cerveau reptilien où ils ont cru mourir. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont paniquer. Et que les autres ne vont pas paniquer. Parce que les autres, ils n'ont pas cette mémoire-là qui est liée. Tu comprends?
Oui.
Et donc, c'est ça la différence. Et du coup, souvent, ce qu'on croit être le moment où on a eu le trauma, en vrai, c'est juste le moment qui a révélé le trauma. Mais ce n'est pas celui qui a ce que j'appelle l'événement codant, qui est en fait le premier qui est inconscient et qui s'est passé en général dans notre petite enfance. Je te dis, la plupart du temps, avant notre naissance, en intra-utérin, à la naissance ou dans la toute petite enfance, ou éventuellement dans d'autres vies.
Parce que qu'est-ce qui me vient à l'idée actuellement là, pour le rejet, si on va voir dans le passé, si on regarde juste dans le monde animal, la mère qui rejette son bébé, mais le bébé il devient un morceau de viande pour les tigres, pour les lions, pour tout le monde, parce qu'il s'est fait rejeter. Tu sais. Donc c'est là que le rejet devient une émotion qui vient parasiter notre cerveau, dans le fond.
Oui, tout à fait. Mais comme l'abandon, c'est la même chose. Enfin, c'est d'un point de vue primitif, quand tu es abandonné par ta tribu, tu as une chance de survie qui est faible. Hein. En vrai.
Ce que je commence à comprendre avec toi, Luc, c'est vraiment que toutes ces peurs viennent de peur de la mort, dans le fond.
Exactement.
Et c'est exactement. Ce qui crée le stress, puis le cortisol et tout ce qui se passe dans notre corps.
C'est pour ça que c'est aussi difficile à raisonner. Parce que celui qui le vit pour lui, en interne, c'est une question de vie ou de mort, exactement. Pour ça que celui qui est à l'extérieur qui dit « Ouais, mais c'est bon, pourquoi tu flippes, c'est rien, c'est qu'une petite araignée, c'est qu'une petite… » Lui, il ne sait pas. Il sait pas que pour l'autre… Imagine, t'as un flingue qui est devant les yeux comme ça. Et on te dit, et l'autre, il ne le voit pas que t'as un flingue, tu vois. Mais toi, tu l'as. Et toi, t'es paniqué, t'es comme ça, tu vas mourir, quoi. Et l'autre dit, mais c'est bon, qu'est-ce que tu te calmes. Mais parce qu'il ne voit pas, lui, t'as un flingue sur le front, tu vois. C'est pour ça qu'il y a souvent une incompréhension entre les gens qui vivent ces émotions incontrôlables et les autres. Parce que les autres, ils disent, ah, c'est bon, calme-toi. Quoi. Et parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est normal qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas la même, ils ont pas la même perception du danger immédiat que vivent celui qui est en but à la réaction émotionnelle.
OK. Et c'est un peu ça la méthode Nerti, dans le fond, c'est que tu vas enlever cette peur de la mort dans le cerveau reptilien, dans le cerveau mental, dans le cerveau gauche, droite. Ça travaille un peu partout, quoi.
C'est ça, en fait, ça va travailler au niveau du reptilien, et après, une fois que le reptilien il est calmé, il va dire à l'émotionnel, c'est bon, tu peux te calmer, et après la pensée, elle va dire, c'est bon, t'es calme. Tu vois, okay. Ça va dans ce sens-là, et pas dans l'autre sens, où tu peux toujours essayer de lui dire, il n'y a pas de danger. En plus, le problème du cerveau reptilien, c'est qu'il n'a pas de langage. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas, tu peux lui parler en français, en chinois, tout ce que tu veux, il ne comprend pas. Il n'a pas le... Tu vois, c'est comme un reptilien, tu vois, c'est un serpent, quoi. On va dire à un serpent, viens ici, coucou, je panier, truc comme ça. Il comprend pas, il a pas la capacité pour le faire. Il est pas câblé pour ça.
Ah ouais, mais le reptilien, lui, tout ce qu'il va comprendre, c'est que si un tigre qui approche, il va se sauver.
Exactement. Et c'est une bonne idée. Si c'est un vrai tigre, c'est une bonne idée. Donc, et quelque part, notre cerveau reptilien, il y a des situations dans lesquelles il se met en route, c'est très bien. Tu te mets au bord du vide sans assurance, des trucs comme ça, bah, il te dit t'approches pas, bah, il a raison, enfin, c'est très bien. Il te dit aussi qu'il ne faut pas traverser une autoroute sans regarder, tu vois. Enfin, c'est très très bien. Il est là pour notre survie, en fait. C'est notre ange gardien de survie. Donc il est très bien. C'est juste qu'il y a des moments où il va se déclencher dans des situations qui ne sont pas appropriées.
C'est ça, c'est ça. Et donc, la méthode Nerti, c'est un peu ce qu'elle fait, là. Elle va aller le rééduquer, mais pas en lui parlant en français ou en anglais ou en quoi que ce soit, mais elle va lui parler dans sa langue, donc.
C'est ça. Et sa langue, c'est les sensations du corps.
OK, c'est les sensations du corps. OK, ça
Ouais.
traite.
C'est par là, c'est par les sensations du corps qu'on va communiquer avec lui.
OK. Et est-ce que c'est pour ceux là, qui seraient intéressés par la méthode Nerti, donc comme on disait au début, c'est un peu comme apprendre à faire du basic. Une fois qu'on le sait, c'est très facile. Mais
C'est
au
ça.
début, c'est quand même un peu compliqué. Donc, il faut s'attendre quand même à s'y mettre pendant quelques heures, quelques semaines.
Quelques heures. En général, les gens qui le font, alors je dis toujours aux gens, quand ils s'inscrivent à la formation en ligne, d'y aller tranquille. Parce qu'il y a des gens, ils vont aller, ils veulent, ah, je veux avoir le résultat tout de suite. Du coup, ils font les leçons rapidement, ils font l'exercice un peu n'importe comment. Et ils arrivent au moment de la libération. Et puis, ils essayent une fois, deux fois, ils disent, ah, j'y arrive pas, bah oui, mais t'as fait n'importe quoi. C'est comme si tu veux faire une recette de cuisine en regardant juste le gâteau, tu dis bon, bah, ok, il y a du chocolat, il y a du sucre, il y a de la farine, je mets les trucs, je mélange. Et puis on dit après, ah, je comprends pas, c'est pas le bon gâteau au chocolat. Bah oui, mais tu n'as pas suivi la recette dans l'ordre. Forcément, ça marche pas. Donc, je dis toujours aux gens de prendre un peu de temps, mais après, ça, en général, même pas une semaine, tu peux déjà commencer à faire tes premiers nettoyages. En s'y mettant un peu tous les jours. Après, si tu prends que 5 minutes par jour, peut-être il te faudra 2 semaines. Parce que voilà, c'est. Mais voilà, c'est assez rapide quand même pour arriver à le comprendre. Et après, bah, c'est en le faisant régulièrement. Et une des choses qui est importante aussi, c'est que, donc je parlais tout à l'heure du quatrième module dans lequel tu fais ton premier nettoyage, mais au cinquième module, il y a une certification, c'est-à-dire que tu peux avoir un certificat d'auto-NERTI. Et pour avoir ce certificat, il faut faire 3 séances sur 3 sujets différents. C'est-à-dire que tu vas faire 3 nettoyages. Dans 3 sujets, enfin, sur 3 sujets différents. Donc, si tu es capable d'en faire un nettoyage sur un sujet, un autre nettoyage sur un autre sujet, un autre nettoyage sur un autre sujet, tout seul, bah, tu maîtrises. Donc, c'est pour ça que tu as ton certificat d'auto-NERTI. Et c'est ça l'objectif, c'est que tu sois après en capacité de l'utiliser n'importe où, n'importe comment. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'utiliser soit au moment où tu as l'émotion, c'est-à-dire, mettons, tu es en train de paniquer, donc tu dois prendre la parole en réunion. Ouais, en réunion, c'est peut-être pas la bonne idée. Je vais l'utiliser après. Mettons, tu descends dans ta cave, tu as cette araignée, tu paniques, et ben, tu fais ta séance de NERTI et ton autre séance, ton auto-NERTI, et après tu vas voir dans ta cave et tu te rends compte que tu n'as pas peur de l'araignée. Donc là, tu as fait ce que j'appelle à chaud. Sinon, il y a possibilité de le faire. En différé à froid. C'est-à-dire que tu es dans cette réunion, et dans cette réunion, tu paniques, tu gèles, tu frises, comme tu disais, tu n'arrives pas à prendre la parole. Et ben, juste après, tu ne peux pas le faire sur place, hein, parce que là, tu as tout le monde autour de toi, donc tu ne peux pas faire ton auto-NERTI devant tout le monde, forcément, c'est normal. Et donc, juste après, ben, tu vas te mettre aux toilettes, ou chez toi, ou dans ta voiture, ou peu importe. Et là, tu fais ton auto-NERTI, ce que j'appelle à froid. C'est-à-dire juste après. Enfin, différé. Juste après, tu fais ton auto-NERTI et du coup, ça va te nettoyer. Et la fois d'après, tu vas te retrouver en réunion et là, hop, ça va se passer tout seul. C'est cool. Et puis, tu peux même le faire en préparation. C'est-à-dire que tu sais que tu vas avoir une prise de parole et tu sais que bah, tu flippes à chaque fois que tu as ça. Et bah, du coup, en anticipation, tu vas t'imaginer au moment où tu vas aller là, tu vas sentir que l'émotion, elle vient déjà, tu commences à flipper, tu commences à avoir peur, et tu vas faire ton auto-NERTI sur ce moment-là que tu es en train de préparer. Donc, tu vas pouvoir le faire soit en avance, soit pendant, soit après. C'est top.
Ok, c'est le fun ça. C'est bien. Je voyais tout à l'heure, avant de débuter, tu me parlais aussi que l'accompagnant NERTI pour aider ses proches.
Oui, c'est ça. En fait, là, je t'ai parlé du premier niveau, qui est le niveau auto-NERTI. Ouais. Et puis après, bah, évidemment, souvent, quand on a un truc qui marche bien pour nous, qui nous a fait du bien, on s'en libère. Bah, la première chose qui vient pour la plupart d'entre nous, c'est de dire, je vais en parler à d'autres, je vais aider mes enfants, je vais aider mon compagnon, ma compagne, je vais aider mes amis, enfin voilà. Et c'est normal, on a envie de ça. Et souvent, les gens ils me disaient, ouais, mais j'arrive pas, j'arrive bien à faire sur moi, mais je sais pas trop faire sur les autres. Et du coup, bah, j'ai fait ce niveau accompagnant pour expliquer aux gens comment aider d'autres personnes, pareil, qui sont en difficulté, avec de nouveau ces trois approches, soit avant, soit pendant, soit après. Tu vois ? Et pour qu'ils puissent aider leurs proches facilement. Donc ça, c'est le deuxième niveau qui s'appelle donc accompagner en NERTI, c'est pour nous, les gens qui nous accompagnent, qui sont autour de nous. Et puis après, ben, pour les gens qui faisaient ça, il y en avait des thérapeutes, des coachs, des trucs comme ça, qui me disaient, ouais, Luc, c'est bien, mais moi, je voudrais aider vraiment mes clients, quoi. Je voudrais utiliser NERTI pour mes clients. Et donc, du coup, j'ai fait le niveau maître praticien NERTI qui, là, permet aux thérapeutes et aux coachs de vraiment maîtriser NERTI parce que il y a un autre protocole aussi derrière qui est le NERTI à froid. C'est-à-dire que c'est des gens, ils n'ont pas vécu la difficulté émotionnelle juste avant, elle ne va pas non plus se passer juste après, c'est un autre moment de leur vie. Mais ça continue à être actif pour eux, ça continue à être désagréable pour eux. Ben dans ce cas-là, les thérapeutes ils vont utiliser ce qu'on appelle le NERTI à froid, c'est-à-dire d'arriver à faire du NERTI sur une situation qui n'est pas là du tout. Et ça, c'est encore un autre protocole qui est plus complexe à maîtriser et qui arrive quand les gens y arrivent, enfin quand les thérapeutes ils l'utilisent, en fait, ça fait un énorme changement parce que imagine, quelqu'un vient les voir, il y a une émotion qui est là, ils dégagent la source de l'émotion, et après, ils peuvent continuer leur coaching, ils peuvent continuer leur accompagnement, leur thérapie, et ça fait un changement dans la vie de la personne, mais énorme. Et du coup, quand les gens sont formés à NERTI, eh ben, le bouche-à-oreille derrière, il est explosif. Forcément, parce que les gens, ça fait une telle différence pour eux que du coup, ils veulent des fois revenir pour eux pour d'autres sujets, mais souvent, ils en parlent à leurs copains, à leurs copines, à leur boulangère, à leur coiffeur. Voilà, et du coup, les gens qui sont formés à AutoNERTI, ils ont, en général, le cabinet, il explose derrière. Ils ont des semaines, voire des mois d'attente derrière. Ah, je t'entends pas, t'as coupé ton micro.
Donc, les gens peuvent devenir thérapeutes, là. Carrément.
Oui, 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 tout à fait. Ah, ouais. Oui. C'est en forme des thérapeutes, en forme des coachs directement. Bon, après, je conseille souvent d'apprendre aussi d'autres techniques, ne serait-ce que de la psychopatho, de la PNL et de la sophrologie, que je pense que c'est très complémentaire. Mais déjà, avec ça, ça fait une différence énorme pour les gens qui l'utilisent.
On parle dans le chat là, du Tipeee. Est-ce que c'est la technique Tipeee? Donc, c'est un peu... Est-ce que tu connais ça, toi, Tipeee?
Oui, tout à fait. Ben, ça fait partie des techniques que j'ai utilisées, enfin, qui ont fait partie de ce qui m'a permis de créer un NERTI, effectivement. Et après, moi, j'ai poussé nettement le truc. Je te parlais de l'histoire du verrou émotionnel. Effectivement, dans Tipeee, on parle aussi des sensations. Et comme en Vipassana, tu vois, c'est la même chose. On travaille sur je te parle aussi de la pleine conscience qui est à l'origine de NERTI aussi ou de la sophro. Et tout ça, ça joue dans la même cour, en fait. Ça joue dans la cour des sensations du corps. Tu vois. Et des sensations du corps qu'on accepte et qu'on accueille et qu'on arrête de contrôler. Et c'est là où les trois erreurs communes dont je voulais vous parler aussi sont là. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer la première erreur qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de contrôler ce qui se passe. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que souvent, quand on a une émotion, les gens vont dire oh, c'est bon, prends sur toi, contrôle-toi. Mais en fait, quand tu contrôles, tu cristallises l'émotion. C'est-à-dire que tu crées une tension en toi. Et comme tu crées une tension, eh ben, la partie qui est en tension, eh ben, c'est effectivement celle qui va moins bien marcher. Et du coup, qui risque de créer une pathologie derrière. Et donc, quand on contrôle, on empêche en fait ce système de nettoyage de se mettre en route. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est d'essayer de comprendre, c'est-à-dire de dire, ouais, mais pourquoi j'ai ce problème? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je me sens mal? Pourquoi j'ai peur de cette araignée? Parce qu'en fait, d'abord, il n'y a pas de raison logique et à part le fait qu'il y ait une association interne avec le moment de la perte de connaissance au niveau du reptilien, mais ce n'est pas logique. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, c'est parce que ma grand-mère, ceci, parce que j'ai vécu telle chose. Non, c'est juste une association. Il n'y a pas de logique. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, qui est au moins aussi importante, c'est que pour comprendre ta propre question, tu es obligé de passer dans le circuit neuronal. Je m'explique. Quand tu dis « pourquoi j'ai peur de telle chose ?» Pour comprendre ce que tu es en train de dire, tu es obligé d'avoir l'image de la peur en toi et le circuit neuronal de la peur. Parce que tu ne peux pas penser à quelque chose sans que ça fasse le circuit neuronal. Si je te dis « pense à une, ou ne pense pas même », si je te dis même « ne pense pas », ça marche pareil, à un ours blanc en train de faire du trampoline. Et ben dans ta tête, là, maintenant, il y a un ours blanc qui est en train de faire du trampoline. Tu vois ? Parce que tu as pensé à cette image, donc du coup, tu as créé le circuit neuronal dans ton cerveau qui correspond à cette image. Donc, quand tu dis « pourquoi j'ai peur ?», tu te passes dans le circuit neuronal de « j'ai peur ». Et donc, d'une part, tu renforces ce circuit neuronal de la peur, donc du coup, tu en fais une autoroute neuronale. Donc, du coup, ben, ça devient un gros chemin sur lequel tu vas passer facilement et tu vas renforcer donc, la peur, premièrement. Et deuxièmement, tu vas trouver des raisons parce que quand tu poses la question pourquoi, si là je te disais pourquoi tu es assis sur ta chaise, ben, tu vas trouver une raison. Même si tu ne cherches pas à comprendre, ben, même si tu ne cherches pas à répondre, ton cerveau il va répondre à l'intérieur, forcément. Et donc quand tu dis pourquoi j'ai peur, ton cerveau, il va trouver des réponses. Ah, parce que je suis ceci, parce que je vais ça, parce que machin, parce que j'ai vécu telle chose, parce que je suis pas à la hauteur, parce que n'importe quelle raison. Elles sont pas vraies, pas forcément vraies. Mais ton cerveau, il va les croire et ça va encore renforcer le problème. Donc, je récapitule. Première erreur, essayer de contrôler. Deuxième erreur, essayer de comprendre, de se poser la question pourquoi j'ai ce problème. Il ne faut surtout pas faire sa faute. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser faire ce qui se passe et arrêter de réfléchir. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que tout le travail de pleine conscience, de vipassana, de choses comme ça, va aider parce que là, on t'apprend à juste accueille, laisse faire, ou en sophro aussi, accueille, laisse faire ce qui se passe dans ton corps. D'accord ?
Oui, oui, oui.
Et après, il y a la troisième erreur dont je voulais parler. C'est, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, c'est de vouloir refaire un gâteau sans la recette du gâteau. J'ai un exemple comme ça qui est assez chouette, c'est ma grand-mère était alsacienne et quand j'allais à Noël chez elle, je ne sais pas si vous connaissez les gâteaux alsaciens, les gâteaux avec de la cannelle dedans, enfin des sablés comme ça, ils étaient vraiment, j'étais fou de ces gâteaux-là. Et j'ai voulu les refaire. Et donc, je refaisais chez moi et j'ai fait je ne sais pas combien d'essais. Et à chaque fois, c'était pas mal, ça ressemblait bien, mais ce n'était pas vraiment ça. Et puis un jour, je vais chez ma sœur. Et j'arrive chez ma sœur, on était dans un retour de Noël. Elle me dit « Ah, j'ai fait des gâteaux de Noël. » Je goûte ces gâteaux de Noël. Et là, ah, exactement le même goût que chez ma grand-mère. Je dis « Mais comment t'as fait? Comment t'as réussi, toi, à le faire ?» Et elle me regarde en rigolant, elle me dit bah, « j'ai demandé sa recette ». Et elle avait effectivement demandé la recette à ma grand-mère donc avant qu'elle décède. Et du coup, bah, elle les faisait normal, naturellement. Et donc, c'est ça la troisième erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on essaie de réinventer, de faire quelque chose juste en le voyant de l'extérieur. En disant « bah ouais, bah, ça va être comme ça ». Et du coup, on fait des essais et erreurs. Moi, j'ai mis 28 ans avant de trouver la bonne recette. Enfin, 28 plus 4 ans encore d'essais et erreurs avant de vraiment trouver. Donc, Ça a mis du temps. Alors évidemment, vous ne mettrez pas autant de temps, hein, parce que je pense que vous êtes plus rapide que moi et que vous avez plus d'infos maintenant dans le monde moderne. Mais juste si on voit de l'extérieur, on se dit, oh, bah, ça va, c'est bon, c'est facile, je vais y arriver. Tu vois. Ce qu'on appelle inconsciemment incompétent. Dans les quatre niveaux de compétences. Je ne vais pas rentrer là-dedans, peut-être pas. Mais c'est-à-dire qu'on sait pas qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. On dit ah ouais, mais si, ça a l'air facile, je vois, c'est juste un gâteau au chocolat, il y a juste une façon de le faire. Mais non, il y a un ordre, une recette, il y a des ingrédients, il y a des petites subtilités. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à refaire une recette juste en regardant un plat. Voilà, sauf si on est vraiment ultra doué et hyper spécialiste dans le domaine, mais c'est très rare. Donc c'est pour ça que je ne peux que conseiller de suivre la bonne recette qui a déjà été concoctée de notre côté. Ou alors vous pouvez essayer par vous-même, mais ça risque d'être plus long.
Ben, c'est ça. Hein. Il y a des gens qui essaient de faire des maisons juste à regarder une maison. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il faut etc. Et il faut savoir comment ça.
Si tu fais que le mur sans faire les fondations, tu auras un souci. Hein.
C'est un peu le concept des formations que les gens font, c'est que ça permet aux gens de ne pas perdre de temps. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des essais-erreurs, puis ils peuvent prendre 20 ans pour faire des essais-erreurs. Puis encore après 20 ans, est-ce qu'ils vont l'avoir, la recette? Peut-être pas, tu sais. Donc, ils sont mieux d'aller vers quelqu'un qui a la recette, pour que ce soit pour n'importe quoi. Hein. Moi, c'est pour ça que souvent, on fait des conférences, et puis on propose des choses, mais c'est vraiment pour que les gens arrête de perdre du temps.
C'est des raccourcis. Quand on lit. Moi, tout ce que j'ai appris, je n'ai pas appris que tout seul. Je me suis formé pratiquement tous les ans. J'ai fait une formation dans un sujet. Je me suis vraiment plongé complètement. J'ai lu des centaines, je pense même des milliers de livres aujourd'hui. Mais parce que, en fait, toute l'expérience des autres, on l'utilise et. Il y avait quelqu'un qui disait, on est sur l'épaule, on est des nains sur des épaules de géants. Mais c'est ça. En fait, c'est que chacun accumule l'expérience des autres, un maximum, et puis on rajoute sa petite couche. Moi, j'ai juste rajouté ma petite couche, mon petit protocole dessus, mais ça s'appuie sur toute la sagesse de toutes les personnes qui m'ont enseigné, toutes les personnes que j'ai lues. C'est pas juste... Enfin, des fois, les gens disent « Ouais, c'est moi qui ai tout fait. Hein. » Dans tes rêves. En vrai, tu t'es juste appuyé sur la connaissance des autres avant.
Moi, je le vis des fois. Tu sais, j'essaie de pas payer. Tu sais, puis là, je regarde plein de vidéos sur YouTube sur un sujet. Mmh. Il y a un coach, un autre coach. Tout ce qui est gratuit, je le regarde, mais on vient facilement m'aider. Pourtant, toutes les vidéos donnent des bons trucs, des bonnes façons de faire. Mais il y en a tellement que tu deviens mêlé dans tout ce qu'ils te proposent. C'est pour ça que quand tu arrives dans une formation de quelqu'un qui a vraiment fait le tour de tout, qui a pris le temps ensuite de tout démêler, de tout te mettre en étape, et puis de faire en sorte...
Tu vois, quand tu dis... Même une phrase, tu vois, si tu ne mets pas ta phrase dans le bon ordre, bah, ça ne veut pas dire la même chose.
C'est ça.
Et donc, c'est simple, hein, mais tu dis, je monte, enfin, le chien monte sur l'arbre ou l'arbre monte sur le chien, enfin, c'est pas la même chose, c'est le même mot, mais ça ne veut pas dire la même chose, tu vois.
Ah non, ça ne va pas dire la même chose. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller vers quelqu'un qui a vraiment fait le tour au complet, qui a pris le temps de tout mettre en ordre, et puis ensuite de le délivrer d'une façon à ce que ça soit étape par étape, puis qu'on arrive à la bonne solution.
Et puis aussi qui a validé que les étapes, elles étaient bonnes. Parce que nous, ça a bougé, tu vois, on est à plus de 5000 personnes maintenant dans la formation Tonerti. Ben, la formation, c'est pas la même, c'est la version 4, là, tu vois. Parce que ben, les premières versions, elles étaient bien, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on pouvait améliorer, qu'on pouvait encore... Donc là, c'est l'expérience de plusieurs milliers de personnes qui est derrière, aussi, d'essais sur des personnes qui nous ont dit, ben ouais, mais telle partie, ça va bien, mais telle partie, on ne comprend pas trop. Ou les coachs qui m'ont fait remonter, qui ont dit, dans cette partie-là, les gens, ils ont eu un peu de mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider, tu vois ? Il y a de l'ingénierie de formation derrière, en plus. Et c'est pas...
Ah, ouais.
C'est pas juste sortir de notre chapeau. C'est aussi ce que les gens nous ont dit pour les aider, enfin, qui facilitait leur apprentissage, qui facilitait leur intégration.
Je sais pas, ça fait quand même plus d'un heure qu'on parle, Luc. Il y a des gens là, qui veulent savoir c'est quoi la méthode Nerdy. Je vous la mets sur le chat, les amis, si vous êtes intéressés. Je vais la mettre aussi à l'écran ici. Donc, vous allez tout simplement sur legrandchangement.com/Nerdy, N-O-R-T-I, tout simplement.
Je n'ai même pas dit ce que ça voulait dire, Nerdy.
Oui, ben oui, qu'est-ce que ça veut dire, justement?
C'est un acronyme, en fait. Ça veut dire nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. N-E-R-T-I.
OK. Et là, je vois, Luc, qu'il y a deux facettes à cette formation-là. Il y a deux options. Peut-être que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi les deux options.
Ben, en fait, on a mis soit la version auto-Nerdy, seul,
ouais.
Les particuliers. Et après, on s'est dit que le mieux, c'était de donner carrément, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis donc auto-Nerdy déjà qui a un tarif déjà intéressant là ce soir. Et surtout, on a fait que, en donnant, si les gens s'inscrivent à l'accompagnant, on leur permet d'avoir l'accompagnant et le maître praticien, et on offre aussi l'auto-Nerdy. Donc du coup, la deuxième option, c'est la totale. C'est soit auto-Nerdy, soit la totale. Pour pas qu'il y ait trop de choix qui prennent la tête. Voilà, donc si vous êtes un particulier et que vous voulez juste travailler sur vous, auto-Nerdy, c'est très bien. Par contre, si vous êtes un thérapeute, un coach, et que vous voulez vraiment faire une grosse différence dans l'accompagnement de vos clients, à ce moment-là, c'est la totale.
OK, ah ouais. Et donc, c'est la totale, c'est vraiment les thérapeutes, ils peuvent prendre ça pour le pratiquer dans leur bureau, quoi.
C'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, ça fait. Ce qui est fou, c'est que quelle que soit la pratique que vous avez dans votre cabinet, vous pouvez l'associer avec une artiste. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre. Ah. Ça va avec. C'est-à-dire que la plupart des thérapeutes, vous travaillez avec vos clients. Et souvent, quand il y a une émotion, vous êtes un peu ennuyé, vous ne savez pas trop quoi faire avec cette émotion. Et là, ce qu'il y a de bien quand vous avez Nerdy, c'est que dès que l'émotion arrive, vous allez faire le protocole Nerdy, qui va durer peut-être 5 minutes, 10 minutes, et vous allez du coup enlever la source de l'émotion. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure la mémoire traumatique, le verrou émotionnel. Donc, du coup, la personne va se retrouver dans la même situation, et vous, elle aura complètement libéré cette réactivité émotionnelle. Et du coup, souvent, la réactivité émotionnelle, elle empêche tout ce que vous apportez en tant que coach ou thérapeute, tout ce que vous aidez de la personne. Par exemple, la personne qui veut apprendre la prise de parole en public, je dis n'importe quoi, par exemple, on va lui donner des techniques, on va lui dire faut poser ta voix, il faut parler doucement, il faut laisser vivre ton émotion. Sauf que quand elle est prise par la réaction émotionnelle, quand tu lui dis ça, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce qu'elle est submergée par l'émotion. Et donc, si tu es en train de l'accompagner et au moment où elle a l'émotion, avec Nerdy, tu l'aides à l'éliminer, après, tes conseils, elle va pouvoir les utiliser. Et du coup, tes conseils vont avoir plus d'impact, tes clients vont être plus contents, et toi, tu vas être plus satisfait aussi, tu vas avoir encore plus confiance dans ton coaching, dans ton accompagnement. Et du coup, les gens vont être contents. Comme ils vont être contents, ils vont en parler autour d'eux. Ça va faire une différence importante. Ça va faire un effet waouh. Et l'effet waouh, c'est ce qui produit le bouche-à-oreille.
OK. C'est bien. Donc, quelqu'un qui fait du... J'ai vu la technique avec des yeux, là, EMDR, je pense. Quelqu'un qui fait Tipeee, quelqu'un qui fait... Il peut ajouter Nerdy à sa boîte à outils. Là.
Exactement. Exactement. Et c'est typiquement voilà, sur le EMDR ou sur le EFT, par exemple, aussi. Les gens, ils ont le... Il y a un moment une bouffée émotionnelle, ben, plutôt que d'être embêté par cette bouffée émotionnelle, tu vas l'utiliser pour faire ton RT. Et après, tu vas continuer tes rondes, tu vas continuer ton travail très facilement et très simplement. C'est comme si tu avais eu un. Tu es en train de rouler sur une route, tu as un gros caillou au milieu, et plutôt que de faire le tour du caillou, bah, là, tu enlèves le caillou. Et après, quand tu repasses sur la même route, bah, tu es tranquille, il n'y a plus de caillou.
Ok. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de certification. Est-ce que c'est la certification? C'était dans l'auto-NERTI, mais est-ce que c'est aussi dans la totale? Est-ce qu'il faut être
Ouais.
certifié pour faire NERTI?
En fait, on fait une certification pour être sûr que les gens utilisent correctement un RT et sont vraiment compétents pour l'utiliser. Donc, on demande aux gens, et en fait, on fait des supervisions. C'est-à-dire, ça fait partie de la formation. C'est-à-dire que on va demander aux gens d'enregistrer des séances avec leurs clients. Et ça se fait très facilement, hein. Il suffit de dire aux gens, voilà, j'enregistre parce que je suis en train de m'améliorer. Tout le monde est d'accord, il n'y a aucun souci. Pas tout le monde. La plupart des gens sont d'accord si on leur demande comme ça. Évidemment que ces séances ne sont pas montrées au public, hein, évidemment, personne ne les voit, à part les coachs. Et donc les coachs vont regarder la séance. C'est comme s'ils étaient avec vous, en fait, à votre séance. Puis ils vous disent, ah ben là, à tel endroit, tu as fait telle chose, tu aurais pu la faire comme ça, différemment. Ou ça, c'était très bien. Ce que tu as fait là, c'était parfait. Continue comme ça. Et à tel endroit, bah, tu aurais pu aller un peu plus vite ou un peu plus lentement. Ou tu aurais pu. T'as posé cette question-là de cette façon-là. Celle-là, elle était très bien. Et celle-là, par contre, tu aurais pu la poser de cette façon-là. Et comme ça, les gens vont s'améliorer. Et du coup, ils vont pouvoir faire des séances vraiment super et avoir des super résultats.
Ok. Ah, c'est bien ça. Et j'imagine que vous avez formé beaucoup de thérapeutes.
Parlons d'une centaine aujourd'hui qui sont maîtres praticiens. Ouais.
Ah, pas moins de 100.
Et après, ceux qui sont certifiés, on les inscrit sur la carte des maîtres praticiens. C'est-à-dire que nous, on a souvent des gens qui nous contactent et qui disent, ouais, mais moi, je ne veux pas apprendre la technique, je veux juste aller voir un thérapeute. OK. Ça arrive aussi à hein, certaines personnes. Ou alors, elles disent, bah, je veux aller voir un thérapeute avant de me former pour vérifier si j'y arrive, si ça marche. Hein, ouais. Donc, au début, on ne savait pas trop à qui envoyer les gens. Et maintenant, en fait, on leur donne l'accès à la carte des maîtres praticiens. Donc, c'est une carte du monde hein, et sur lesquelles on inscrit les gens qu'on a certifiés. Ça, on est sûr que. Et du coup, ça ramène aussi du monde. Et on est sûr que les gens qu'on recommande, bah, ils sont compétents.
Ok. Et tu parlais des coachs aussi, c'est pas ces gens-là, là, les coachs.
Ah, les coachs internes, ben en fait, dans la formation, on a remarqué que les gens, si on les laisse tout seuls, des fois, ils peuvent s'arrêter, ils peuvent bloquer. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, ils ont un endroit où ça s'arrête, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, comme on veut que vraiment les gens réussissent, on a fait qu'à chaque leçon, en bas dans l'espace de commentaires, on pose des questions. On leur demande de répondre à des questions avant de passer à la leçon suivante. Et là, les coachs vérifient les réponses systématiquement. Et s'il y a des questions, ils vont répondre dans les 24 à 48 heures, systématiquement, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et si jamais ils se rendent compte que les réponses aux questions sont pas terribles, qu'il y a des erreurs, ils vont contacter les personnes pour leur expliquer, pour vérifier que tout au long du parcours, les gens suivent bien. Et c'est ça aussi l'avantage de la formation en ligne, c'est que ça, en présentiel, on ne peut pas le faire. Parce que
Okay.
quand tu as, mettons une douzaine, même si c'est un tout petit groupe de 12 personnes, ben, tu ne peux pas suivre les 12 personnes individuellement. Tu ne peux pas vérifier que chacune elle a bien compris ce que tu as mis. Tu ne peux pas lui poser la question, ah bah tiens, est-ce que tu as compris ce truc-là? Enfin, si tu lui poses la question, est-ce que tu as compris? Elle va te dire oui. Mais tu ne peux pas l'interroger, faire une espèce d'interrogation. Alors que là, dans la formation en ligne, bah, la notion que tu as expliquée dans la leçon, bah, tu lui demandes à la fin tu lui poses une question à laquelle, quand elle te répond, tu sais qu'elle a compris. Tu vois, par exemple, si je te dis quelle couleur est le livre qui est derrière moi, tu vas
Oui.
dire quoi, celui-là?
Et blanc et bleu.
Bleu, voilà. Bon, bah, si tu me dis blanc et bleu, Je sais que tu as vu le livre.
Oui.
Tu vois, je suis certain.
Ouais,
Tu comprends? Et donc, c'est ça. Donc, les questions qu'on pose, c'est des questions comme ça qui, si tu m'avais dit rouge, bah, j'aurais, ou jaune, bah, je t'aurais dit, il y a un souci, on va revérifier ce que tu as regardé parce que tu penses que tu n'as pas dû regarder le livre. Tu as regardé le bouton qui est en dessous. Tu vois? Tu vois, c'est bon, c'est idiot mon exemple, hein, mais c'est juste pour montrer. Et donc, les coachs, ils sont là pour accompagner les gens, pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui perde la traque, qui perde le chemin, en fait, pour aller au résultat du nettoyage.
Ah, oui. OK, ben, je comprends. Là, c'est quoi les coachs et tout? Il y a des gens qui demandent, est-ce que c'est bon pour le vertige, par exemple?
Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça marche très très bien pour le vertige. Et le fer à chaud, c'est très drôle, quoi, parce que les gens, bon, évidemment, il faut le faire dans une situation où tu as une barrière quand même devant, hein, parce que tu ne vas pas te mettre en danger. Mais les personnes à s'approcher du vide, elles font leur auto-nerti. Elles se mettent en sécurité, elles font leur auto-nerti. Puis après, elles se rapprochent. Et puis là, elles y vont et elles sont là. Mais je suis en face du vide, je suis collé contre la barrière et tout va bien, quoi. Ils sont super étonnés quand ça arrive, quoi, parce que... Et tu peux le tester tout de suite, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'attendre que ça se... que de te dire, ouais, peut-être dans un an, quand j'aurai fini ma thérapie, ça va changer. Non, non, c'est là, c'est maintenant. Tu vérifies tout de suite, est-ce que ça a marché, oui ou non, point bas. Moi, je dis souvent ça, les gens me disent, ouais, mais est-ce que ça, théoriquement, ça peut marcher? Il y a des gens comme ça qui me disent, ouais, mais théoriquement, on ne peut pas, en une séance, changer quelque chose d'aussi profond que ça fait des années que tu as. Je dis, théoriquement, peut-être c'est pas possible. Mais en vrai, si tu le fais, tu vas te rendre compte que c'est possible.
Ah, c'est fou, hein, quand même.
Ouais.
C'est fou que. C'est parce que tout à l'heure, hein, on parlait qu'il y a des gens qui vont regarder une maison, qui vont essayer de faire la maison, ça ne fonctionnera pas. Mais si on la recette pour le faire, la fameuse maison, ça va se faire rapidement et bien fait. Et c'est ça qui arrive avec ton système. C'est que les gens ils ont une recette et puis ils vont rapidement se débarrasser de quelque chose qu'ils supportent depuis des années, des années et des années, là. Des fois, ça peut faire 30, 40 ans que les gens supportent une phobie, là.
Mais c'est exactement ça, et c'est souvent d'ailleurs un des retours qu'on a, hein. C'est que les gens disent, mais le nombre d'années que j'ai perdu, le nombre d'années que j'ai perdu à cause du fait que je me suis, enfin, que j'ai pas, que je connaissais pas ce truc-là. Et le pire, alors, il y a ceux qui connaissaient pas, mais le pire, et ça c'est quelque chose que j'ai de plus en plus, bah forcément, puisque maintenant ça fait plus de 10 ans, pratiquement 10 ans que c'est en ligne, hein, depuis 2014. C'est des gens qui s'inscrivent maintenant et qui me disent, mais Luc, en fait, je te connaissais, je t'ai vu en 2014, je t'ai vu en 2015, je t'ai vu dans une conférence, je t'ai vu comme ça. Puis je me suis dit, ah, c'est pas le moment, ah, oh, j'ai pas l'argent, ah, oh, j'ai pas le temps, ah, oh, je sais pas quoi. Et puis qui l'ont pas fait. Et puis qui sont inscrits l'année dernière, par exemple. Et qui me disent, ah, oh, punaise, si j'avais su. Je l'aurais fait en 2014, en 2015, un truc comme ça. Parce que toutes les années que j'ai perdues à galérer, à souffrir, à toutes les occasions que j'ai perdues. Et ça, pour moi, ça, c'est l'un des trucs les pires de ce que j'entends. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser à toi qui nous écoutes, c'est juste prendre quelques instants là maintenant et te dire, imagine. Tu te vois, tu es sur ton lit de mort. Tu es dans, je sais pas combien de dizaines d'années. Imagine ça. Tu es sur ton lit de mort. Et tu te rappelles de cette soirée-là. Tu étais là à écouter la télé du Grand Changement avec Michel et avec moi. Tu te rappelles de ce moment-là. Et tu te rappelles que tu t'es dit, ah, oh, mais non, c'est pas le moment. J'ai pas l'argent ou j'ai pas le temps. Ou... Et tu te rappelles comment toute ta vie elle a continué à avoir la même galère que ce que tu vis maintenant, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Tu t'es pris la tête pendant toute ta vie à cause de ça. Tu as galéré, tu as perdu du temps, de l'argent, de l'énergie, des opportunités. Et tu as encore l'argent sur ton compte, tu as encore le temps que tu n'as pas dépensé pour ça. Et pourtant, tu es en train de mourir. Et maintenant, je te propose l'autre scénario. Tu as vécu, tu es à la fin de ta vie, tu es sur tu as ton lit de mort, et là, tu étais à cette conférence, et tu t'es dit, allez, go, je prends le pari, j'investis là-dessus, je teste ce que ça donne. Et là, tu as appris la méthode, tu as changé ta vie, tu as commencé à switcher, et tu as découvert des trucs que tu pensais même pas possible, tu as commencé à faire des choses incroyables, tu as changé complètement ta vie, tu es passé à un autre niveau financier, un autre niveau dans tes relations, un autre niveau dans tes... Dans ta carrière, un autre niveau dans tes sensations avec toi-même, te sentir bien avec toi-même, ton niveau de paix intérieure. Tu es à la fin de ta vie, et tu es là, et tu dis, waouh, j'ai pris cette décision à ce moment-là. C'est vrai que c'était un engagement, c'est vrai que c'était difficile, c'est vrai que j'avais pas forcément le temps, j'avais pas forcément l'argent, j'avais pas forcément. Mais bon sang, ça a changé tout. Qu'est-ce que tu voudrais te dire à la fin de ta vie? Et c'est ça, en fait, le vrai truc. Et moi, ce que je veux pour toi, je souhaite pour toi, c'est de ne pas te laisser perdre encore 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Parce que c'est ce qui se passe quand on se dit, ouais, peut-être plus tard, peut-être. Le nombre de regrets que je reçois, le nombre de personnes qui. Je dis, et ça arrive de plus en plus souvent, et ça me tue. Les gens viennent me voir et me disent, ah, j'aurais dû le faire X années avant, quoi. Je sais pas comment te le dire autrement. Des fois, je m'en veux, tu vois, quand les gens me disent ça, ils me disent, mais j'ai pas été assez bon, j'ai pas assez expliqué, j'ai pas assez bien montré l'impact que ça pouvait avoir, ce que ça pouvait changer pour eux, qui a fait que ils ont. J'ai pas réussi à les aider à prendre la bonne décision à ce moment-là. Et des fois, j'ai un peu les. Ouais, je m'en veux un peu des fois, carrément, de me dire. Mais... J'aurais peut-être pu faire mieux, j'aurais peut-être pu. Alors, je sais pas quoi, évidemment, je fais de mon mieux, quoi, mais j'aurais peut-être pu aider les gens à prendre ce que j'estime être la meilleure décision de leur vie. Moi, franchement. Si on m'avait montré cette technique-là, quand j'étais en train de me galérer avec ma timidité, quand je n'osais pas aller prendre cette baguette de pain, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je paniquais, j'étais en panique totale, j'étais à l'idée de rentrer dans une boulangerie, quoi. Si à ce moment-là, on m'avait dit, OK, c'est sûr, tu le fais, enfin, tu peux, tu vas, t'as une solution et en plus, c'est garanti, j'aurais fait. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de Tony Robbins qui m'a coûté une blinde. C'est ça, plus de 10 000 euros à l'époque. Enfin, c'est quand j'y pense, c'est dingue. Et j'avais pas de sous. Hein. J'étais voilà, j'avais un petit salaire de rien. Il m'a fallu plusieurs. Je pense que c'est pas loin d'un an que j'ai économisé que j'ai dû faire pour arriver à cet argent. Puis encore, je faisais d'autres boulots à côté. Enfin, j'ai galéré pour y arriver. Et sur le moment, c'était génial, j'étais super content. Mais en vrai, qu'est-ce que ça avait changé? Rien. Profondément, rien. Je me suis retrouvé la même chose, dans la même galère, les mêmes deux choses bloquées dans les deux pieds coulés dans le béton, là. Là, vous avez la chance de pouvoir y accéder, de pouvoir. En plus, avec la garantie. En fait, cette garantie, en plus, elle est dingue parce que le risque, je préfère prendre. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu fou, hein, mais je préfère prendre le risque qu'il y ait quelqu'un de malhonnête qui, du coup, fasse tout, apprenne tout, et puis il me dise, ah, finalement, je vais être remboursé, que de prendre le risque. Que vous n'appreniez pas cette technique. Je préfère ce risque-là. Je préfère que vous la mettiez à l'envers, plutôt que vous disiez, ouais, mais non, je ne sais pas si je vais pouvoir, si je vais y arriver, ainsi de suite. Faites-le. Faites-le. Je vous ai dit, la garantie, soit vous le faites tout seul, ça marche pour eux, soit vous n'y arrivez pas tout seul, c'est les coachs qui vont vous aider. Si les coachs n'arrivent pas à vous aider, c'est moi qui vais vous aider. Et si là, on n'y arrive pas encore, on vous rembourse. C'est taré quand ils pensent. C'est dingue. Et je fais ça depuis 2014, 5000 personnes. Donc, je suis tranquille, je sais ce que je fais. C'est pas. Là, j'ai aucun doute.
Et toi, tu sais que ça l'aide les gens. Les gens sont aidés par cette technique-là. Ça leur permet de changer leur vie. C'est pour ça que tu veux absolument que tout le monde puisse accéder.
C'est sûr.
C'est un peu comme un docteur.
Il y en a un après. Les gens qui viennent, qui m'en parlent, enfin, les témoignages qu'il y a sur mon site, partout. Les gens, enfin, c'est dingue. Le changement de vie que c'est. Il y a un avant et un après. C'est plus la même.
Et dans les 5000 personnes, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, j'imagine.
Ah, oh bah oui, forcément. Ouais. C'est souvent, les gens, il y en a un qui le fait, il en parle à sa voisine, à ses amis, choses comme ça. Enfin, ça tourne. Et puis, même les thérapeutes. Les gens, ils vont voir des thérapeutes, ça a changé leur vie. Enfin, et du coup, ils disent, mais c'est quoi la technique que vous avez utilisée? Et quand les gens disent, bah, c'est NERTI. Du coup, ils se renseignent et puis ils vont apprendre l'auto-NERTI derrière aussi. Et tiens, ça me fait penser, des fois, les gens disent, ouais, mais du coup, il y aura trop de thérapeutes, il y aura plus besoin. Alors, en fait, il y a trop de mauvais thérapeutes. Il y a trop de thérapeutes qui ne donnent pas de résultats. Parce que les mauvais thérapeutes, du coup, ils dégoûtent les gens d'aller en thérapie. C'est-à-dire que ça. Ils font que les gens ils disent « Ouais, ça marche pas, c'est pas la peine. » Alors que les bons thérapeutes, ils augmentent le marché. Parce que quand les gens sont contents qu'ils ont changé quelque chose, ils veulent changer encore autre chose derrière. Parce que c'est faux de dire qu'on aura tout réglé. Hein, ouais. Enfin, on fait du travail sur eux, ils savent très bien. Tu travailles sur une chose, c'est bien, tu vas mieux. Et puis, tu as envie de travailler sur autre chose. Et puis, encore autre chose. Et puis, encore autre chose. Et puis ça monte et tu vas augmenter ton niveau de difficulté et du coup tu vas te challenger, tu vas aller sur des niveaux de difficulté plus importants. Donc de dire ouais, un jour ça sera fini, il n'y aura plus besoin de thérapeute et on n'aura plus besoin de travailler sur soi, c'est faux. C'est oubli quoi. Des fois les gens me disent ouais, mais je voudrais bien que ça s'arrête, je ne veux plus du tout avoir de problème. Et là je leur dis la plupart du temps, alors si tu veux savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, j'ai un super test pour toi. D'ailleurs, je te propose, pour qui nous écoute, je te propose le super test pour savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est un test infaillible. Il marche à tous les coups. Donc, sois attentif. Ce test, c'est est-ce que tu respires? Est-ce que tu respires? Si tu me dis oui, c'est pas fini. C'est simple. C'est juste ça. C'est que tant que tu respires, tant que tu es vivant, tu auras des choses à gérer. Et c'est pour ça qu'apprendre NERTI, c'est aussi un changement de paradigme complet, parce que tu vas pouvoir te libérer de plein de choses. Après, s'il y a certains gros sujets sur lesquels qui sont complexes et qui ont plein de ramifications, bah, tu vas pouvoir aller voir un thérapeute, pourquoi pas. Mais sur la plupart des choses de ta vie, de tous les jours, des réactions de ta vie de tous les jours, tu vas pouvoir les dégager par toi-même facilement. Tout au long de ta vie. C'est pour ça que j'insiste autant sur le fait que les gens apprennent l'auto-NERTI plutôt que d'aller voir un thérapeute. Après, il y en a qui vont y aller voir, de toute façon, aussi des thérapeutes. Hein. N'en faites pas, il y aura de la clientèle pour tout.
Auto-NERTI, okay, c'est vraiment ça que les gens doivent savoir. C'est soit on va voir un thérapeute, soit on se forme à auto-NERTI et on se le fait à nous-mêmes.
C'est ça, exactement. Okay.
Ah ouais, c'est bien ça. Hey, un grand merci, Luc, de toutes ces informations et puis de nous avoir parlé de NERTI et surtout du fait que tu penses qu'il faudrait que tout le monde puisse accéder à ça parce que ça leur permet de se défaire de leurs chaînes, dans le fond.
C'est ça.
C'est des chaînes qu'on a, des phobies, des peurs, des ci, des ça. On est accroché, on est...
J'utilise souvent le truc de dire, c'est comme si on avait un boulet, on se balade avec un boulet au pied. Tu vois, et du coup, tu essaies de danser, mais avec un boulet au pied, c'est pas très gracieux. Tu vois, tu danses ta vie, tu essaies de danser ta vie, mais avec ton boulet au pied, là, du coup, tu n'es vraiment pas gracieux. Et du coup, une fois que tu enlèves le boulet, bah, tu peux commencer à danser, à vraiment vivre ta vie complètement. Donc, ouais, tu es enfermé, quoi. C'est exactement ce que tu dis.
Exactement. Bon, Luc, ça fait, j'ai dépassé mon temps. Donc, hey, merci encore vraiment énormément. Et puis, merci à vous tous hein, qui nous avez écoutés. Luc, j'espère que je vais avoir la chance de te revoir sur la chaîne du Grand Changement. Vraiment.
Avec plaisir. Avec plaisir, Michel. Puis, bonsoir à toi qui es chez toi et puis bonne soirée. J'espère que ça t'a apporté.
Et bonne soirée à tous, les amis. On se revoit très bientôt. Hein. Comme je vous disais, je vous remets l'adresse hein, si vous voulez vous inscrire. C'est legrandchangement.com/nerti, NERTI, les amis. Donc, vous vous inscrivez et puis vous allez être sous les ailes de Luc et son équipe. OK. Merci beaucoup à tous. Bye bye.
Allez, prenez soin. À bientôt.
À bientôt.